Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Cette semaine, dans notre émission, nous retrouvons Bernard Michon et Virginie Chaillot-Atrousse, historiens et membres du CRHIA. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé de langagisme à l'île de la Réunion. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux liens avec le port de Nantes et à la participation de plusieurs négociants à ce système de langagisme. On l'a évoqué lors des missions précédentes, Nantes demeure la capitale française de la traite des Noirs durant la période où ce commerce d'êtres humains est légal, mais persiste également après l'abolition, en pratiquant intensément la traite illégale. Nous avons également vu qu'une partie des engagés venus des côtes africaines étaient en réalité des esclaves et que le système pouvait s'apparenter à une traite déguisée. Ma première question, Virginie Chaillot-Atrousse, est-ce que vous pouvez nous dire si des familles nantaises de négociants ont pris part à ce commerce des engagés ?
Oui, donc d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que bon nombre de négociants ou de compagnies de commerce qui pratiquaient le commerce des esclaves vont se reconvertir dans le transport des engagés qui va présenter une véritable aubaine. Ils s'inscrivent donc dans un large réseau de trafic de main-d'œuvre qui, dans l'océan Indien, reprend les circuits de la traite illégale. Concernant le commerce des engagés africains, puisqu'il s'agit bien là d'un commerce à destination de la Réunion, deux maisons nantaises vont y prendre activement part, la maison Viau et la maison Henri Polo, qui commercent également le sucre. Alors Henri Polo est né à Nantes en 1825, il est le fils de François Polo et il est l'héritier d'une famille de négociants originaires d'Espagne et installés à Nantes à partir du XVIIe siècle. Il va s'associer à Eugène Rosier au milieu du 19e pour créer une grosse société d'armement de navires. Alors nous possédons beaucoup de détails sur les activités commerciales d'Henri Polo car il entretient une correspondance très suivie avec Eugène Rosier qui lui s'occupe effectivement du commerce et donc de la vente de ses contrats d'engagés sur place à La Réunion. Cette correspondance a d'ailleurs été reproduite par l'historien Jacques Fierin dans son ouvrage sur Nantes et La Réunion au temps du Second Empire. Alors on sait que les affaires d'Henri Polo sont plutôt florissantes puisqu'il va mourir millionnaire en 1898. J'évoquais aussi tout à l'heure la maison Viau de Nantes dont les activités sont tristement célèbres en raison du drame survenu à bord du Regina Coeli. Ce navire est donc un trois-mâts de 600 tonneaux de l'armement nantais Alexandre Viau, sous le commandement du capitaine Jean-Théodore Simon. Et c'est un navire qui va quitter Saint-Nazaire en 1857. Après une escale à Gorée, le navire se dirige vers le Libéria pour acheter des engagés à destination de la Réunion. Alors c'est une particularité puisque c'est effectivement le seul transport que j'ai pu identifier où les engagés viennent de cette partie-là de l'Afrique. Pour le reste, ils viennent tous de la côte orientale. Les autorités du Libéria vont s'engager à livrer 408 hommes et 42 enfants. Mais le 9 avril 1858, 271 d'entre eux sont déjà à bord quand va éclater une altercation entre le cuisinier et un des engagés. Les immigrants vont massacrer le cuisinier et vont également tuer 11 hommes d'équipage puisque le cuisinier aurait été violent avec ces immigrants à bord. Quelques jours après, un bâtiment anglais va remorquer le navire et le drame provoqua un incident diplomatique très fort entre la France et l'Angleterre, les Anglais accusant une nouvelle fois les Français de pratiquer la traite. Et puis surtout, ils vont affirmer que ces engagés à l'intérieur du bateau avaient des menottes et étaient donc traités comme des esclaves. Et d'ailleurs, l'affaire va faire grand bruit dans la presse anglaise. On peut également citer le capitaine nantais Chevalier, qui lui va plutôt opérer pour les Antilles à partir de 1853. Et puis, à La Réunion, on va citer la famille Mabitte, qui, elle, ne pratique pas le commerce des engagés, mais qui va s'installer à La Réunion à la suite de mauvaises affaires réalisées en métropole et qui va par contre devenir employeur d'engagés dans le cirque de Salazie.
Donc on voit bien le lien que l'on peut faire finalement entre cet épisode de la traite et en particulier de la traite illégale et la reconversion de certaines familles dans ce commerce des engagés. J'ajoute que cette famille Rosier, Eugène Rosier, est issue d'une famille orléanaise qui est venue s'installer à Nantes au XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, une partie, donc on a un membre de cette famille, Ferdinand, qui part s'installer aux USA. Donc là, on voit bien finalement tout un réseau qui se tisse. Et je signale cette affaire-là parce que nous avons un collègue enseignant-chercheur à l'université de La Rochelle, hein, Tanguy Villerbu, qui s'intéresse à cette famille et devrait publier un ouvrage sur elle très prochainement.
Et les Nantais sont-ils les seuls métropolitains à prendre part à ce système ?
Non, alors on peut citer aussi la maison marseillaise, la maison Régis, qui va avoir un rôle effectivement prépondérant dans le commerce d'engagés, mais à destination des Antilles. Donc c'est une maison de négoces et d'armement qui est fondée par Victor Régis et qui va signer une convention avec l'État. Alors ce qui est rare, ce qui n'existe pas pour l'océan Indien, pour le transport des engagés. Pour l'océan Indien, on a des opérations privées, de gré à gré. Pour les Antilles, on va avoir donc une convention, ce qu'on appelle le traité Régis, où en fait Régis va se mettre en accord avec l'État français pour le transport de 20 000 engagés rachetés à destination des Antilles en 1857.
Vous écoutez Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec les historiens Bernard Michon et Virginie Chaillot-Atrousse. Alors, on a parlé des familles nantaises de négociants qui ont pris part au commerce des engagés. Et au-delà de désengagés, est-ce qu'il y a des liens commerciaux entre Nantes et La Réunion ?
Oui, alors juste une toute petite précision par rapport à ce que vous dites, c'est bien le commerce des engagés africains. Et en gros, voilà, ça concerne uniquement les Africains quand on parle d'un véritable commerce. Oui, effectivement, les liens commerciaux entre Nantes et La Réunion dépassent le trafic d'humains, puisqu'ils concernent également le commerce du sucre, hein, évidemment, et de manière importante au 19e. Les navires qui, d'ailleurs, apportent des immigrants vont revenir avec les cales remplies de sucre de Bourbon. Et il faut noter qu'au 19e siècle, les Nantais, comme l'ensemble des Français, ont vu leurs habitudes alimentaires évoluer et la consommation de sucre considérablement augmenter. Et puis, on le disait, avec la perte de Saint-Domingue et de l'Île-de-France, hein, on en a parlé dans une précédente émission, eh bien, La Réunion devient l'une des principales colonies productrices de sucre et elle intéresse à ce titre les Nantais. Nantes devient d'ailleurs le premier port de France à importer du sucre réunionnais. Donc si au début du siècle, ils apportent de la main-d'œuvre esclave, puis des travailleurs engagés, Nantes va également apporter des outils nécessaires à ce commerce du sucre, et en particulier des animaux. Ils vont apporter des mules qui seront nécessaires à la culture de la canne à sucre, notamment dans les terrains arpentés. Et donc les échanges sont très nombreux à ce niveau-là. L'historien Xavier Leterrier explique d'ailleurs, et là je le cite, que l'on peut considérer que le sucre a joué le rôle d'interface entre les rives de la façade atlantique et les rivages réunionnais.
Et des populations venues de la France hexagonale ont-elles migré vers La Réunion ?
Oui, alors bien sûr, hein, de manière constante, on a des Français qui partent vers La Réunion. D'ailleurs, on peut noter des expériences d'engagés métropolitains qui sont sous le même régime d'engagement que ces étrangers dont je vous parlais tout à l'heure, puisqu'on va effectivement tenter au 19e siècle, et là on fait le parallèle hein, avec ces engagés du 17e qui sont européens, eh bien on va tenter à La Réunion d'introduire quelques engagés qui viennent de Bordeaux pour les premiers. Mais ça serait un véritable échec hein, puisque les colons réunionnais vont dire qu'ils sont incapables de travailler sous des climats tropicaux. Et puis ces Français vont rapidement se plaindre des conditions dans lesquelles ils sont traités. En dehors de ce système de l'engagement d'Européens qui a concerné vraiment très très peu de personnes, hein, moins d'une centaine, eh bien on va avoir tous ces hauts fonctionnaires hein, qui vont migrer à La Réunion, des commerçants. Et puis également, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a de plus en plus de femmes qui vont migrer et des femmes qui vont migrer seules vers la colonie de La Réunion, alors qu'on sait que c'est un voyage en mer qui est non seulement très long, mais qui est en plus périlleux. Donc on va retrouver des religieuses, évidemment, mais également des institutrices qui vont fonder des écoles. Et puis, je voulais juste préciser une petite anecdote, on va retrouver également des sages-femmes. Et ça, c'est relativement rare, qui, dès le début du 19e, alors elles s'appellent Marguerite Antoinette Gourdin et Gabrielle Angélique Laplanche, et c'est deux parisiennes, et elles vont écrire au ministre de la Marine et des Colonies en expliquant qu'elles veulent migrer à Bourbon pour aller accoucher les négresses. Et effectivement, il n'y a pas de sages-femmes formées, des femmes, à l'île Bourbon, et donc elles vont demander leur passage. Et ce qui est très intéressant, c'est que déjà, elles sont très jeunes, elles ont 23 ans et 26 ans, et surtout, elles désirent se rendre aux colonies. Et elles ne mentionnent aucunement leur époux dans leur demande de passage, alors qu'elles sont toutes les deux mariées. Donc on voit bien que les raisons qui poussent ces femmes à partir aux colonies, eh bien, elles sont multiples. Elles vont déjà s'intégrer dans une logique impériale, celle de répondre à une notion de peuplement. Les femmes manquent dans la colonie de la Réunion, mais également à des logiques individuelles. Et là, dans l'idée, c'est se défaire de la tutelle maritale.
À Nantes, nous avons eu l'occasion d'évoquer dans une précédente émission les problèmes justement de ces enjeux avec la mémoire de la traite, la mémoire de l'esclavage. Alors on voit bien aussi qu'il y a quelques lacunes dans cette mémoire par rapport à l'engagisme et par rapport aux familles nantaises qui ont participé à l'engagisme. Alors la question que je voulais vous poser, Virginie Chaillou-Atrousse, c'est qu'en est-il à l'île de la Réunion ?
Alors, aujourd'hui, à La Réunion, lorsque l'on parle d'engagisme, le terme est souvent relié aux engagés indiens, qui, on l'a vu, sont numériquement beaucoup plus nombreux. D'ailleurs, jusque dans les années 2000, l'engagisme africain est méconnu, au sens où la très grande majorité des habitants de l'île pensent que les Africains sont arrivés essentiellement par le biais de la traite, et le terme d'engagé est réservé aux Asiatiques. Aujourd'hui, les descendants d'engagés indiens constituent un groupe à part entière, avec leur culture, leurs traditions, leur religion. Et au contraire, les descendants d'engagés africains ne forment pas un groupe social défini. Ils sont finalement noyés dans la masse des Réunionnais d'origine africaine, descendants d'esclaves ou tout simplement nouvellement immigrés. Et leur place dans la société réunionnaise est encore à conquérir. Aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir par rapport à cette question de la mémoire, c'est qu'il existe plusieurs courants parmi les descendants d'engagés. Certains vont être dans la négation et affirment que leurs ancêtres sont venus faire le commerce ou ont tenté l'aventure à l'île Bourbon, ou affirment pour d'autres qu'il n'y a pas eu d'engagés africains, par exemple. D'autres vont être dans la reconstruction d'une histoire peut-être plus conforme à leur position sociale actuelle, et c'est relativement vrai pour les descendants d'engagés indiens qui vont avoir tendance à s'inventer un passé un peu plus glorieux. D'autres sont dans la survalorisation, supplantant ainsi le passé des autres communautés. Et il existe une sorte peut-être de concurrence mémorielle qui se mêle également à celle de l'esclavage. Et enfin, à l'instar des descendants d'esclaves, eh bien certains descendants d'engagés indiens, affirmant que l'engagisme est une traite, eh bien vont demander réparation à l'État français. Donc là, on est vraiment dans des systèmes de mémoire qui sont comparables à ce qui se passe aujourd'hui avec la mémoire de l'esclavage.
Virginie Chaillot-Atrousse, merci pour votre participation à cette émission. Bernard Michon se retrouve la semaine prochaine. Nous poursuivons notre exploration historique et nous parlerons de la traite négrière vue de l'Afrique avec l'historien Guy Saupin. Merci, excellente fin de journée.
Merci.
C'était Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la mémoire, avec à la technique José Pasquale.